Pour la prédication, nous allons faire on va lire pas mal de versets qui racontent une histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Isaac. Après, on va basculer entre Isaac et ses fils. Il a deux fils, Ésaü et Jacob. Ce que nous allons retenir de cela, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans la vie où le Seigneur va nous interpeller. Déjà, Isaac, c'était une personne que Dieu avait un projet pour lui, même avant sa naissance. Vous vous rappelez bien qu'Abraham, il a prié, le Seigneur lui donne, Dieu lui a dit, tu auras une postérité. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme sa femme était stérile, il a essayé de déballer Dieu, si on va dire comme ça. Sarah a dit, prends ma servante, Agar, et puis elle a une enfant. Après, Agar regarde Sarah avec un mauvais œil, et puis après, Sarah, et tous les problèmes qui ont commencé, Ishmaël, le fils d'Agar et Abraham. Bon, le jour est venu, les anges de Dieu sont venus, et ils ont dit, voilà, Sarah, elles sont enceintes. Elle a dit quoi? Certain âge, hein, elle avait au moins 100 ans, hein, il me semble. Et combien? 90 ans, d'accord. Et c'est pas jeune. Et puis elle a dit, même pour moi, c'est pas. Mais Dieu a toujours voulu montrer qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Même si c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Après, Dieu a demandé à Abraham de ramener son fils. Et puis, pour sacrifier son fils. Après, vous pouvez imaginer que quand même Abraham, il a dit, mais comment ça se fait? Tu m'as donné un fils, tu as dit que sa postérité sera plus nombreuse que les sables de la mer, que les étoiles du ciel, et maintenant tu me demandes d'offrir mon fils. Et je trouve aussi que même dans nos vies, que quand Dieu nous donne quelque chose, il aimerait savoir si on aime cette chose plus que lui. Abraham, il n'a pas réfléchi. La Bible dit, il n'a pas hésité. Ok. Et même, il dit en hébreu qu'il croyait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Il avait une telle confiance en Dieu. Est-ce qu'il avait la Bible à cette époque? Moïse est déjà né? Non, il n'a rien. Mais il avait une foi, une confiance en Dieu. Alors, maintenant, Isaac, il grandit, et là, il y a la mort de sa mère. Abraham a dit à un de ses serviteurs, « Va dans mon pays. » Et là, je veux bien, il a demandé, c'est leur façon d'agir, il a dit, « Mets ta main sur ma cuisse. » Et là, il a fait jurer, « Tu prends une femme que Dieu veut comme mon fils. » Bon, le serviteur est parti, il a dit, « Mais comment puis-je trouver la femme ?» Pour mon maître, le fils de mon maître, pour Isaac, comment je peux prouver? Alors il a prié. Et Dieu a répondu à ses prières. Il a mis certains critères, Seigneur, que ce soit cette femme-là, que ça soit, qu'elle fait comme ça, qu'elle peut, voilà. Et puis Dieu a fait en sorte, et puis après, il est rentré. Il est heureux. Voilà, ça c'est un peu l'arrière-plan qui arrive à notre lecture. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît?
Cependant, Isaac était revenu du pays de Lachaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère.
Alors, ils ont eu un beau démarrage. Ils ont bien démarré. Nous voyons que malgré que c'est un mariage un peu arrangé, c'est quand même arrangé par Dieu. Alors ils ont cherché la face de Dieu. Et là, Dieu a conduit les choses. Bon, c'est bien entendu que ce n'est pas la façon qu'on on fait les mariages aujourd'hui. Mais après, ce que j'avais apprécié avec ce jeune couple, c'est que là, vous vous rappelez, à un moment donné, ils sont allés en Égypte. Et quand ils étaient en Égypte, bon, Isaac a fait un peu comme son père. Hein, il a dit, mais t'es belle, comme Sarah était belle. Et il a dit, mais dis au Pharaon que tu es ma sœur. Parce qu'il avait peur que Pharaon va faire tuer Isaac pour. Hein. Et puis après, bon, ils ont fait ça. Et puis, quand même, Pharaon les a regardés, vous vous rappelez? Ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu Isaac et Rebecca en train de jouer ensemble, cet amour qu'ils avaient. C'est vrai que, avec le temps, ça peut se perdre. Dès le départ, on voit les bonnes choses chez l'autre. Mais après un certain temps, on peut commencer à voir les mauvaises choses aussi bien que dans une église. On peut vivre un temps dans l'église. Et là, j'ai raconté à quelqu'un l'autre jour, j'apprécie beaucoup notre église parce que nous vivons. Et même, on m'avait dit, oui, c'est bien là-bas hein, pour vous, mais c'est que la lune du miel. Hein. Attends, ça va arriver. Mais on est toujours dans la lune. Pourquoi? Parce qu'on aime le Seigneur, on cherche à édifier les uns les autres, on met en valeur les dons de chacun, et Dieu est glorifié. Bon, ça n'a pas arrêté là, il y avait le démarrage, parce qu'il y avait un beau démarrage, mais après il y a les enfants. Et regardons ce que Dieu dit par rapport à ces deux enfants que Rebecca va mettre au monde. S'il vous plaît.
L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront pour sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Travaillons à nos relations. Dieu a dit dès le départ que normalement c'est l'aîné qui domine sur la famille, c'est lui le droit de l'aîné, c'est lui qui est l'héritier de tous les grands bénédictions. Mais Dieu a dit le contraire avec cette situation. Il y a Jacob qui va dominer sur son frère. Alors, quand nous voyons dans nos familles, il y a nos frères et sœurs. Hein. Il y a aussi, qu'on peut dire, dans notre relation, dans nos frères et sœurs en Christ. Quelqu'un a dit de vivre en haut avec ce que nous aimons. Ça sera la gloire. Mais de vivre ici-bas, avec ceux qu'on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. C'est vrai. On a les frottements, on a les conflits de personnalité. Et ces relations. Mais Dieu veut que nos relations soient saintes. Il dit dans le Nouveau Testament, de tous ceux qui demandent vous, de qui vous concernent, vivre en paix avec tout le monde. Dieu veut que nous vivons en paix. Alors, travaillons à notre nation. Ces enfants grandissent, s'il vous plaît.
Ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme méchant. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob.
Vous voyez quand même un petit problème là. C'est quoi? Ouais. Évitons de faire du favoritisme. Ça c'est surtout avec nos enfants. Mais après quand on va dans le domaine de les petits enfants, j'ai en tête une famille où les grands-parents, ils ont les trois petits-enfants, et il y a un des petits-enfants, les plus âgés que les autres, mais il est un peu plus petit. Et le grand-père, j'ai entendu, oh, ce petit machin. Et je peux vous dire que le petit machin, il n'a pas bien encaissé ça. Ça ressent. Il est vrai qu'on a certaines qui, des enfants, ou peut-être nos petits-enfants, on a un peu plus en commun, Mais les autres, évitons de faire cette gaffe de favoritisme. La suite. Ça, c'est pour recevoir la bénédiction. Entre ce temps-là, nous voyons que Ésaü, qui est rentré un soir, il était affamé, il avait soif. Et là, Jacob, il a dit, mais vous voulez manger, vous voulez boire? Il a dit, oui, bien sûr. Et, mais donne-moi ta droite d'aînesse. Et je te donne à boire. Je te donne à manger. Il a dit, mais à quoi me sert-il d'avoir la droite d'aînesse si je meurs de faim? Alors il a, comment on dit ça? Il a donné ça. Et là, quand même, il faut dire, il ne faut jamais sous-estimer ou prendre à la légère les bénédictions que Dieu nous donne. Tout ce que nous avons, c'est de la part de Dieu, il ne faut pas en prendre à la légère. Bon, mais maintenant, c'est pour avoir la bénédiction d'Isaac. Il y a Rebecca qui a dit à son fils, s'il vous plaît.
Et Rebecca dit à Jacob, son fils, voici. J'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande.
Il ne faut pas essayer de dépanner Dieu. Là, elle a dit, ben, Dieu a dit que tu vas dominer sur ton frère. Mais là, papa, il a déjà envoyé Ésaü pour chercher du billet. Dès qu'il revient, il va le bénir. Et là, ça sera un problème pour toi. Tu n'auras pas ce que Dieu aura réservé pour toi. Croyez-vous que Dieu a besoin de te dépanner? On ne saurait jamais comment Dieu a prévu. On ne saurait jamais comment ça aurait pu passer, mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas tous ces problèmes que nous allons voir. Parce que quand Dieu il fait les choses, il les fait bien. Et des fois on prie, Seigneur, aide-moi. Et dès qu'on termine la prière, il n'a pas répondu, on va agir selon notre tête. Et combien de fois on revient après avoir cassé la figure en disant, Oh là là, donne-moi, Seigneur, la patience pour suivre ta volonté. Bon, après, il y a la bénédiction d'Isaac qui est venue sur Jacob. Parce que Jacob, vous vous rappelez bien, il a mis les peaux des animaux, il a mis les vêtements de son frère pour ressembler. Isaac est aveugle, mais il a dit, mais tu as l'odeur, tu ressembles à Ésaü, mais tu as la voix de Jacob. Bon, peut-être, je perds la tête. Alors il avait dit. Est-ce que vous pouvez dire la bénédiction?
Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les filles de ta mère se prosternent devant toi.
Ce que je retire de ça, soyons une bénédiction pour nos enfants. Et pour ceux qui ont des petits-enfants, soyons une bénédiction pour notre famille. Que notre famille, bon, c'est vrai que nous avons l'âge qui nous, et aussi les poids des années qui tirent sur nous, qui essaient de... Mais soyons une bénédiction pour nos enfants, pour les gens autour de nous. La Bible dit qu'aucune mauvaise parole sort de votre bouche. Mais s'il y a lieu, s'il faut parler, que ça rende une grâce à ceux qui entendent. Que nos paroles soient une bénédiction pour les autres. Et que nos petits-enfants... Et nos enfants, quand ils nous voient, ils disent, mais mon père, ma mère, elle est une bénédiction. Il y a quelques semaines de cela, quelques mois maintenant, une de nos filles m'a dit, mais tu ne sais pas à quel point que tu es béni d'avoir une femme comme Anita. Je dis, oui, je le sais. Je le sous-estime. Je le sous-estime, bien entendu. Mais quand même, ça a montré que nos filles est trop que voilà. Il y a une bénédiction. C'est pas de dire qu'on est tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe. Mais soyons en bénédiction. Bon, alors, problème. Bénédiction sur Jacob. Ésaü revient avec son bon gibier. Et qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît?
Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. »
C'est fort. Est-ce que vous croyez que c'était le plan de Dieu qu'il y aura ça? Je ne pense pas. Bon, Dieu a dit que c'est Jacob, mais ça ne devait pas passer comme ça. Alors, le conflit entre Jacob et Ésaü. Là, on pense souvent, mais quand même, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Est-ce que ça peut arriver dans nos familles? Peut-être c'est nous qui est Jacob, ou peut-être nous sommes Ésaü. Soit on est celui qui a provoqué l'injustice, soit on est celui qui a subi cette injustice. Voilà, grande séparation, division. Bon, bien entendu, dans une église, ça peut arriver aussi, mais ça ne doit pas être. Alors Jacob, sa mère dit, faut tailler la route. Ton frère, c'est un bon chasseur, il va t'avoir, alors il faut que tu tailles la route. Alors Jacob est parti. Mais ce qu'il n'a pas constaté, c'est que là, la première rencontre qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer Dieu. C'est là, il a dormi et il a vu l'échelle descendant du ciel. Et écoutez ce qu'il a dit par rapport à ça. S'il vous plaît.
Jacob se veilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Elle dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
Bon, il y a plusieurs sujets à souligner, mais quand même, il dit ici, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voyons que peut-être sa relation avec Dieu n'a pas été encore établie. Mais Dieu s'est manifesté à Jacob et voulait pour lui montrer. Alors, c'est cette rencontre. Jacob rencontre Dieu. Alors, Bethel, ça signifie maison de l'Éternel. Là, après, il y avait même Élie le prophète qui ont utilisé ce lieu comme la maison, l'école des prophètes. Après, il se trouve auprès de sa belle famille, de la famille de. Laban, c'est la famille. Et puis après, il va voir que celui-là qui a trompé les autres, Jacob qui est le trompeur, nous voyons qu'il était trompé lui-même. S'il vous plaît. Bon, bien entendu, il a travaillé pour son beau-père, son futur beau-père, et là, il veut le salaire.
Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et lui dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. »
Laban, Léa et Rachel. La Bible dit, « On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait sémé, c'est ce qui moissonnera. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laban, il a dit, « Ok, tu travailles pour moi pour 7 ans. Je te donne la fille. » Rachel. Mais la nuit de noces s'est écoulée. Le lendemain matin, c'est qui était dans le lit avec
Léa.
Et là, il allait, « Beau-père, qu'est-ce qui se passe là ?» Il a dit, « Mais on ne fait pas marier la plus petite avant la plus aînée. Hein. » Il a fait ça pour être un piège. Bon, après les troupeaux, ils ont augmenté. Dieu a béni Jacob. Et puis après, il a dit, « Mais que puis-je faire pour avoir Rachel ?» Il a dit, « Mais il faut travailler encore 7 ans. » Et la Bible dit que ça semblait que de peu de jours à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Bon, il faut faire attention. La Bible dit que même il a changé, Laban a changé le salaire de Jacob entre 14 et 17 fois. Parce qu'il voit que Dieu le bénit. Okay? Léa a eu les enfants, Rachel a eu ses enfants. Alors, c'est le moment de partir. S'il vous plaît.
Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. »
Nouvelle rencontre avec Dieu. Jacob, il avait dans son cœur de retourner voir son frère, demander pardon, d'être réconcilié avec son frère. Mais là, de nouveau, il a rencontré Dieu. Et cette passage, bon, on va revenir, il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'avais béni. Il cherchait vraiment la bénédiction de Dieu sur sa vie. Nous voyons que là, il devient accroché à Dieu, Jacob. Mais maintenant, il faut rencontrer son frère. Alors, le bon rencontre. Bon, nous voyons bien qu'il avait des grands troupeaux. Il a mis les serviteurs avant. Après, il a mis Léa et ses enfants. Après, il a mis Rachel et Joseph, Benjamin avec elle, parce que là, il veut les protéger. Alors, il vient vers son frère avec humilité pour la réconciliation. Pardon ?
Les servantes aussi.
Oui, il y avait les servantes, il a mis tout le monde avant, il a gardé Rachel et les enfants derrière. Mais la Bible dit qu'il a passé avant eux.
Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, et plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère.
Alors, imagine. Il y a combien d'hommes qui viennent? Bon, il vient, il a tout ce topo. Il vient. Ah, pardon, mon frère, pardon, mon frère. 400 hommes qui viennent contre toi, tu sais que tu es en tort. C'est jamais facile quand on fait les démarches de la réconciliation. Mais il faut de l'humilité. Et Jacob, il a dit, bon, ben voilà. Dieu, j'ai besoin de ta bénédiction. Et quand on abandonne les dents devant cette réconciliation, il faut vraiment la main de Dieu sur nous. Et puis après, humblement se présenter. Qu'est-ce qui se passe avec Ésaü? Ésaü
courut à sa rencontre et
il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils le pleurèrent, et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux-là que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. »
Imagine, toute cette rancune qui était en Ésaü, « Je tuerai mon frère !» Tout ça s'est passé. Il faut du temps, hein? Le temps... C'est un bon remède, des fois. Il ne faut pas laisser trop de temps, hein, non plus. Que c'est un peu comme le fruit. Hein. Il ne faut pas que ça pourrit. Mais il y a un bon moment, à chaque fois, pour la réconciliation. Alors, nous voyons qu'ils se remis ensemble. Ils se sont pris dans les bras. Mais dans la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il ne vit pas trop proche. Il y a toujours, il laisse quand même une main de manœuvre. C'est-à-dire que là, il faut vraiment, vraiment réfléchir à nos paroles. Parce que les conflits, l'issue des conflits, bon, avec le Seigneur, tout est possible, tout peut être restauré d'une manière, mais il laisse toujours des cicatrices. Que le Seigneur veille sur nous. Seigneur, nous te demandons de nous conduire dans toutes nos relations, dans nos familles. Seigneur, de prendre l'exemple de cette famille bénie par toi. Cette famille de qui nous sommes tous issus, quelque part. Seigneur, je prie que pour les conflits qui peuvent exister dans les familles, Seigneur, que tu donnes courage et grâce. Humilité et patience pour régler cela. Et après, dans l'Église, Seigneur, que tu nous préserves de tout conflit aussi. Que nos désirs soient que tes désirs. Que notre volonté soit que ta volonté, comme disait David. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Merci pour le privilège d'avoir l'Église où nous pouvons soutenir, encourager les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur, à vivre comme tu le veux dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.